Seigneur, nous te demandons encore la grâce de pouvoir connaître ta parole, t'entendre et te recevoir à nouveau dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, comme si c'était la première fois. Fais-nous des disciples, toujours impatients d'entendre la voix de leur maître. Amen. Alors, des moments de danger, voilà, tout est révélé, ou presque. Et il y a une strophe qui dit, lorsque les dangers accourent, subtils, inconnus. Des dangers accourent, subtils, inconnus. Alors on est peut-être, on a été vraiment, on a eu des chants assez entraînants, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité de la vie. La vie telle qu'elle est, dès qu'on sort de ce lieu de culte, eh bien, dans cette vie, il y a des dangers. Et donc, lorsque le mal est fort et l'issue incertaine, eh bien, nous nous trouvons dépourvus. Et donc, ce chapitre nous parle de quatre dangers que nous avons à affronter. Et c'est autant d'avertissements. Alors, le premier danger, donc, c'est le danger de penser que nous sommes forts par nous-mêmes et que rien ne peut nous arriver. C'est ce qui peut nous arriver quand on chante des cantiques entraînants. Voilà. Alors, ça pourrait être un avertissement et une exhortation. Ou une exhortation. Alors, ça peut être un avertissement, tout d'abord. C'est une pensée qui peut paraître agréable. On va dire, je ne suis pas venu au culte pour entendre des choses désagréables. Pour entendre ce mot, si tu te laisses abattre au jour mauvais, ta vigueur est peu de choses. Mais pourtant, on en a besoin de ces choses désagréables dans nos vies. On a besoin d'exprimer ces pensées désagréables, de les entendre. Tout le monde peut foncer, en vérité, la tête baissée lorsque le terrain est en pente descendante. C'est facile. Quand tout va bien, on se sent fort. Nous pouvons penser que nous sommes forts. Et nous pouvons même nous en vanter quelque part. Alors, il n'y a pas de quoi se vanter, nous dit ce verset. Ce proverbe nous dit que c'est l'épreuve, le véritable test de la force. Ce n'est pas quand on se sent bien, quand on chante des beaux cantiques. C'est quand l'épreuve est là. Voilà le véritable test de la force. Un peu comme la solidité d'un arbre se révèle dans la tempête, et non pas par beau temps. Si dans ces moments de tempête, ces moments difficiles, ces moments fatidiques, on ne montre pas de force, c'est la preuve qu'on n'en a pas. Alors en hébreu, il y a un jeu de mots, on ne va pas étaler sa science, mais du genre, si tu faiblis quand tu es miné, minable est ta force. Voilà, on pourrait traduire ça comme ça, sur le mot miné et minable. Il y a un jeu de mots pour qu'on retienne bien ce verset, c'est un moyen mnémotechnique, et c'est pour que ça s'imprime bien et pour que l'idée s'imprime bien. Alors quand tout va bien, donc, gardons-nous, voilà la conclusion déjà, gardons-nous de nous vanter de notre force, de nous confier en elle, de penser que ce sera toujours comme ça, non. Et puis, rappelons-nous que nous disons et chantons souvent que Dieu est notre force. C'est vrai. Mais sachons seulement, quand nous le chantons, que nous n'en ferons la réelle expérience que le lundi matin, qu'au jour de la détresse. Alors, c'est un avertissement, ce verset, c'est aussi, on pourrait dire, une exhortation. On pourrait traduire, si tu es négligent, ta force sera peu de chose au jour de l'adversité. Un peu différent. Si tu es négligent, ta force sera peu de chose au jour de l'adversité. Donc ce serait une exhortation au zèle. Le courage s'exerce comme la force musculaire. Les sportifs exercent leur force musculaire tout au long de l'année pour participer 4 ans après aux Jeux Olympiques. Et ça s'exerce. J'ai parlé récemment à un pompier à la retraite. Et effectivement, ce qu'on voit à la télévision, c'est vrai. Les pompiers font chaque jour l'exercice de la planche. Vous avez déjà vu ça. Et quel que soit leur âge, chaque jour, pour être à même au jour qu'il faudra, au moment de l'incendie, pour être à même de faire ce qu'il faut. Donc ça voudrait dire, utilise aujourd'hui, par exemple, les moyens de grâce. Quand tout va bien, continue à lire ta Bible, à prier, à vivre la vie d'église, à témoigner et toutes les choses qui vont avec pour fortifier ta foi, ton amour, ton espérance. Et ainsi, tu te fortifieras, oui, et tu ne flancheras pas au jour mauvais qui arrivera dans l'avenir. Ça serait, on peut aussi voir une exhortation à exercer sa volonté. Chaque jour, on doit lutter contre la paresse. La paresse, on va en faire un thème dans quelques semaines, mais on doit lutter contre la paresse qui veut prendre le dessus dans nos vies. Au lieu de prendre l'escalier, on veut prendre l'ascenseur. Ah, non ! Exercer sa volonté, dire « Aujourd'hui, je vais prendre l'escalier et monter les 5 étages, et non pas. » Et ça demande un acte de volonté, c'est des petits actes de volonté. Aujourd'hui, je vais faire la vaisselle avant de me coucher au lieu de la faire demain matin, etc. On est plein devant, dans notre vie, on est devant des actes qui peuvent nous... On est devant des choix et on peut choisir la voie de la paresse. Exercer sa volonté. Pourquoi ? Eh bien, par des actes, des petits actes volontaires. Pourquoi ? Eh bien, parce que le jour de l'adversité, on trouvera en soi une réserve de volonté prête à vaincre. Et ça sera une bonne chose. Et donc, dans un climat de passivité, exercer sa volonté, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En tout cas, même, il faut l'ajouter, il faut bien l'avouer, que de toute façon, même en étant vigilant sur sa propre vie, même en se préparant bien, eh bien, notre force réelle est souvent insignifiante. Et elle est en tout cas insuffisante. Et en bien des cas, donc, elle est insuffisante, limitée. Et il est réconfortant de savoir que beaucoup de chrétiens, même des grands héros de la foi, ont fait l'expérience de leurs limites. Ils ont fait l'expérience que leur force vient de Dieu, qu'elle s'accomplit dans la faiblesse. Et on peut parler bien sûr de l'apôtre Paul, qui a eu tellement de combats victorieux, il n'y a qu'à lire la deuxième épître aux Corinthiens. Mais il y a eu le combat de trop, il y a eu le combat contre l'écharde dans la chair, qui aurait pu le mettre à terre également. Mais le Seigneur lui a donné la force dans sa faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12. Il y a le prophète Élie, évidemment, si on cite maintenant un exemple de l'Ancien Testament. Élie, qui a eu victoire sur victoire, en tout cas, il y a eu la pluie qui est arrivée, il y a eu la victoire sur les prophètes de Baal. Mais quand Jézabel, la reine tortionnaire, jure d'avoir sa peau, Élie court comme un lapin, s'arrêter en plein désert, et il s'effondre et il dit adieu à 1 roi 19, « C'en est trop, maintenant, éternel, prends ma vie. » Alors la bonne nouvelle ce matin, c'est que cette parole, face à cette parole, il n'y a pas seulement un avertissement, une exhortation, mais aussi une consolation dans les Écritures. Dieu ne se détourne pas de ses serviteurs qui sont à bout. Alors qu'Élie se morfond à plat ventre dans le sable, on va dire, un ange lui apporte le gâteau et la cruche d'eau. Dieu va lui donner une nouvelle expérience de sa présence, de la façon dont il exécute ses plans, et puis il va lui donner une nouvelle mission et quelqu'un qui va l'accomplir avec lui, Élisée. Alors, nous voyons donc surtout que nous pouvons regarder à Jésus dans ces moments difficiles. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On peut dire, tel est notre seul espoir. Si le Seigneur n'était pas vainqueur pour nous, nous n'irions pas jusqu'au bout, quelles que soient nos forces et nos préparations. Mais par lui, nous tiendrons. Nous deviendrons alors des hommes et des femmes vraiment reconnaissants, sachant que la délivrance relève de la grâce de Dieu à l'état pur. La force de l'homme faiblit, tôt ou tard, dans la détresse. Mais la force du Seigneur triomphe dans la détresse. Voilà ce que nous devons nous rappeler, ce dont nous devons nous rappeler dans ces moments-là. Alors, il y a un autre danger, c'est les versets suivants. Ça se suit, pour une fois, 11 et 12, c'est le danger de la lâcheté. Alors, les dangers arrivent de différents horizons. C'est pour ça qu'ils sont difficiles à affronter, parce que ça arrive d'un côté inattendu. délivre ceux que l'on entraîne à la mort et sauve ceux qui sont chancelants au supplice. Car si tu dis « je ne le savais pas », celui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs, ne discerne-t-il pas, lui ? Oui, celui qui protège ta vie le sait et il rendra à chacun selon ses actes. Alors ces versets font allusion à la coutume de demander publiquement, avant l'exécution d'un prisonnier, si quelqu'un pouvait prouver l'innocence de ce prisonnier. Et il pouvait y avoir une intervention de dernière minute d'un témoin. Ce témoin pouvait renverser le verdict par son témoignage, prouvant l'innocence du condamné. Et donc ce proverbe nous dit que celui qui est capable de répondre à cette demande, le fasse. S'il ne le fait pas à temps, avant qu'il soit trop tard, il n'échappera pas au châtiment que Dieu lui réserve, car Dieu connaît ce qui est au fond des cœurs, ce qu'on a caché, Dieu le sait. Alors il y a bien sûr pour nous, pour chacun de nous, une manière lâche. La lâcheté, c'est une chose très partagée. Il y a pour chacun de nous une manière lâche d'être complice du mal qui se fait. Il peut arriver que les chrétiens entrevoient des choses horribles. Par exemple, des cas de maltraitance. Et tout en n'intervenant pas, ils ne réagissent pas, ils regardent ailleurs. Ça, c'est facile de regarder ailleurs. Et on croit que personne ne nous a vus. Là, voilà. N'est-ce pas, en petit, même si on peut qualifier les choses ainsi, n'est-ce pas en tout cas ce qu'ont vécu ceux qui ont entrevu quelque chose de l'horreur, de l'Holocauste, de la Shoah, et n'ont rien fait. Ils ont regardé ailleurs, là aussi. Alors, ne rien faire, c'est approuver ce qui se fait, c'est être complice du mal. Voilà ce que nous dit ce verset. Alors, on a tendance à dire aujourd'hui aussi, je ne savais pas, je n'ai rien remarqué. Mais est-ce qu'on peut vraiment le dire? À l'heure où le monde entier est connecté 24 heures sur 24, pouvons-nous prétendre que nous ne savons pas quelque chose? Non. Et pourtant, nous avons quand même, nous sommes tentés de dire, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je n'ai rien remarqué. Ou alors on dit, je ne peux, de toute façon, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire de plus. Et puis, on finit par dire, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Suis-je le gardien de mon frère, comme disait, comme on disait, comme on a dit depuis si longtemps. Alors, ce n'est pas mon affaire. Ouais. Alors, le juste, au lieu de dire tout ça, doit au contraire tout faire ce qui est en son pouvoir pour venir en aide à des innocents injustement condamnés. Et cela, même s'il doit payer de sa personne, même s'il doit. C'est au détriment de quelque chose. Alors, on peut citer deux exemples. Dans l'Ancien Testament, Naboth. L'histoire de Naboth, assassiné par Jézabel et le roi Akab. Et donc, un roi 21, 2, etc. Les responsables de la ville, en ne disant rien, en ne réagissant pas, en ne disant pas non à Jézabel, ils ont accepté le complot de la reine, ils ont été complices contre ce pauvre Naboth, dont la reine voulait prendre la petite vigne. Et ils ont été complices en ne faisant rien, en ne disant rien. Et Pilate, dans le Nouveau Testament, Pilate n'aurait pas dû se laver les mains. Bien sûr, je sais que c'est à la mode de se laver les mains. Mais il n'aurait pas dû se laver les mains de ce qui arrivait injustement à l'homme le plus innocent du monde, le Seigneur Jésus. Si j'ai la conviction que quelqu'un en difficulté a besoin de mon aide, je dois agir. Dans la mesure de mes moyens, mais en agissant, je vois que mes moyens étaient plus importants que je ne l'imaginais. Donc là aussi, il y a un acte de foi, d'obéissance à la parole de Dieu. Mais il y a aussi des iniquités dans nos vies que nous nous cachons à nous-mêmes. Parfois, il y a des choses mauvaises que nous ne voulons pas voir. Oh, je ne suis pas au courant, on dit. Oh, je ne savais pas que... Je n'étais pas conscient de faire cela. Et puis on ajoute, oh, je ne peux rien y faire, c'est plus fort que moi. Et c'est le même processus. Et là aussi, une seule solution, c'est de regarder avec l'aide de la parole de Dieu, les choses en face. Et c'est toujours bon de regarder les choses en face. Il est bon alors de se repentir, de se reconsacrer à Dieu, de supplier le Seigneur de nous utiliser à nouveau et de faire toutes choses nouvelles par son Esprit Saint. Un troisième danger, c'est 19 à 20, c'est la jalousie. Ne t'irrite pas au sujet de ceux qui font le mal, n'envie pas les méchants, car ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir et la vie des méchants s'éteindra. Donc c'est toujours la version du sonneur. Il n'est pas toujours facile pour, on va dire, des justes, pour des chrétiens engagés, si on traduit, de ne pas se laisser affecter par la réussite du méchant. Alors le méchant, ça peut être un criminel, ça peut être un rentier, ça peut être un financier, un grand patron, un chef de service, un politicien, ou le voisin d'en face. Alors, Asaph a connu ça. On ne va pas relire le psaume 73 pour le relire chez vous, mais il a connu ce genre de situation. Et donc, le psaume 73 part de cette situation et aboutit donc au retour à Dieu et à la solution. En effet, si l'on s'en tient au temps, il arrive que dans bien des situations, ce soit le méchant et non le juste qui est le vent en poupe, si on s'en tient au temps ici-bas. Et ce proverbe nous le rappelle, le succès, la réussite, la prospérité apparente du méchant ne sont qu'éphémères. En un instant, tout bascule pour eux vers la ruine. Ils sont dévastés, ils finissent leur jour dans l'épouvante du jugement de Dieu. Le psaume 73 le dit aussi, dans les versets 18 à 20. Et donc la réalité est différente. En réalité, même riche, il se trouve sur la voie de la pauvreté éternelle. En réalité, même connu, il se trouve sur la voie de l'anonymat éternel, on va dire. Ce qui fait la force, par contre, du juste, ce n'est pas d'abord les bénédictions qu'il peut connaître ici-bas, qui s'y accroche risque fort d'être rapidement ébranlé dans sa foi, parce qu'il n'y a pas que des bénédictions dans la vie. Non, la richesse véritable du juste se trouve dans son espérance. Et nous sommes tous appelés à fortifier notre espérance. Le Dieu qui a fait alliance avec nous en Jésus-Christ ne nous abandonnera pas. Il veut conduire notre vie à bonne fin. Quelles que soient les conditions que le juste traverse, il faut qu'il s'en souvienne en fin de compte, in fine, comme on dit en latin, sa destinée est toujours incomparablement plus avantageuse que celle du méchant. Et donc le croyant voit plus loin, il voit au-delà des apparences. Si notre jugement se fonde seulement sur ce qui se passe dans notre petite vie terrestre, quelques victoires remportées, quelques défaites subies au cours de la brève durée de notre existence terrestre, si notre jugement se fonde seulement sur ça, nous serons frustrés souvent. Cependant, nous savons que Dieu, le juge suprême, le maître de l'histoire, aura le dernier mot. Et c'est ça qui habite notre espérance, qui la fonde. Alors, la quatrième direction, et ce sera la dernière, c'est la vengeance. 18, 19, 17, 18 et 29. Surtout 17-18, si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas, que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre, car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil, et sa colère risquerait de se détourner de toi, de lui plutôt, et sur toi. Donc, supposons maintenant un autre cas de figure, un peu différent en tout cas, que le méchant ou votre ennemi que vous considérez comme méchant connaisse de terribles revers. Supposons qu'il lui arrive une tuile, comme on dit. L'auteur des Proverbes nous indique alors à la fois la bonne et la mauvaise manière de réagir. Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, que ton cœur n'exulte pas de ce qu'il trébuche. Donc, que ton cœur... Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, si on faisait le contraire, si on s'en réjouissait, si on jubilait, si on exultait, eh bien, on descendrait à son niveau. On descendrait aussi bas que le méchant. Mais aussi, nous dit le le proverbe, de peur que l'Éternel, en le voyant, risque d'être en colère contre toi. Donc on peut voir dans la Bible des personnes qui ont chuté dans ce domaine, qui se sont réjouies de la chute du méchant. Mais on trouve aussi de bons exemples qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de ce proverbe. Par exemple, David, le père de Salomon, a refusé de se réjouir à l'annonce de la mort de Saül. Et pourtant, on a vu il n'y a pas longtemps que Saül était vraiment son ennemi, que Saül était vraiment méchant. Et pas depuis quelque temps, c'était une méchanceté de longue date. Mais David a refusé de se réjouir. Les Édomites, par contre, les Édomites, eux, se réjouiront, vont se réjouir, on voit ça en Abdias 12, ils se réjouissent de la défaite d'Israël, et il est dit qu'ils seront punis par Dieu à cause de cette attitude. Alors, on lit rarement le livre d'Abdias, on pourrait dire aujourd'hui, en rentrant chez vous, on a lu un verset d'Abdias, ça fera tout son effet auprès de vos proches, et Abdias 12 dit, « N'arrête pas tes regards sur le jour de ton frère, le jour de son infortune, ne te réjouis pas au sujet des fils de Judas, au jour de leur ruine, n'ouvre pas tout grand ta bouche au jour de la détresse. » Et donc, nous avons aussi Job, qui, dans le livre qui porte son nom, met au défi ses accusateurs, et il dit qu'il a bien agi dans ce domaine. « Ai-je trouvé plaisir à voir mon ennemi plongé dans la fortune ? Ai-je sauté de joie quand le malheur l'atteignait ?» Point d'interrogation, sous-entendu non, Job 31, 29. Donc, nous réjouir du malheur d'autrui, c'est endosser le rôle du vengeur, et du juge, et prendre la place de Dieu, tout simplement. Dieu qui est le seul apte à juger toute la terre. À nous, il revient, dans ce temps de grâce, d'être témoin de Dieu dans ce monde et d'aimer même nos ennemis. Romains 12. Alors, je termine en disant que le chrétien ne peut manquer de voir dans cette parole une anticipation, et dans d'autres paroles qu'on a lues, une anticipation de la règle d'or que le Seigneur Jésus a énoncée lui-même. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, eh bien, vous aussi, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Peu de fois, on aimerait être mieux jugé. On aimerait qu'on fasse envers nous certaines choses. Et donc, nous sommes appelés à le faire. Nous pouvons le faire. Et éviter tous les dangers dans lesquels nous fonçons tête baissée, bien souvent nous pouvons le faire en nous rapprochant du Seigneur Jésus, en regardant à lui, en laissant le Saint-Esprit nous changer à son image. Que le Seigneur nous soit en aide.